Vous écoutez
RMC.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ouais.
Pierre, trois points de débat pour toi. De quoi veux-tu parler ?
Très très vite, un vrai bon match de Ligue 1. Je me suis régalé, plein d'enseignements à tirer pour une fois quand on a un match le dimanche soir avec le Paris Saint-Germain. Ce qui n'est pas toujours le cas. Neymar qui revient à un très très bon niveau. Donc très intéressant, je pense qu'il faut en parler. Et puis la preuve sur ce match-là que ce système en 4-2-4 est encore à travailler grandement. Voilà.
Daniel, tes trois points à toi.
Le premier, c'est effectivement donc ce très bon match. Le 3-3, donc un bon match, du spectacle et des questions. Ça va sur mon point 2, qui est la première question, c'est le schéma du PSG et surtout le milieu de terrain. Celui-là ne sera pas suffisant dans un gros match. Celui-là, c'est Gaï Verratti. Et mon troisième point, autre question, c'est Monaco. Parce que Monaco, on le savait qu'il y avait des super joueurs dans cette équipe. Il fallait un entraîneur pour organiser tout ça. Moreno, à peine arrivé, a déjà posé son empreinte sur cette équipe, que j'ai trouvé très bonne, qui a les moyens d'être très forte dans la deuxième partie de saison. Et je me demande de quelle façon Monaco va pas pouvoir revenir dans
jouer les troubles faites
et jouer le haut du tableau, parce que c'est
ils sont qu'à 5 points du podium là.
Et parce que c'est une super équipe. Il y a un très bon entraîneur maintenant et il y a des très bons joueurs à tous les postes. Il y a pas d'autres équipes en France qui a Ben Yedder en attaque. Il y a pas d'autres équipes qui ont au milieu Bakayogo, Golovin, des joueurs de cette qualité là. Si en plus Glick se met à la diète et retrouve la forme qu'il avait il y a 2-3 ans, parce que ce soir il a été très bon, il y a aucune raison que Monaco n'enchaîne pas. Là, bon, ils vont avoir le match en retard.
Je t'en donnerai une. Je suis d'accord avec toi que le coach a changé beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que les joueurs suivront, parce que pour moi, une qualité de joueur comme ça, qui était déjà présente dans l'effectif depuis très longtemps, qui d'un seul coup se met au boulot, c'est pas que le coach, c'est aussi parce que les joueurs ont eu envie d'un seul coup de le faire. Et j'espère que, comme très souvent Monaco nous
dit,
habitué ces derniers temps, j'espère qu'ils retomberont pas là-dedans.
C'est un club endormi. S'il arrive à les réveiller, à les remotiver,
sur la durée,
il y a assez de bons joueurs pour qu'une fois passé les deux matchs contre le PSG, qui vont être les deux gros matchs pour eux,
bon, 30 points
mercredi, dans la foulée, j'ai vu les trois prochains matchs, ils gagnent les trois, ils prennent 9 points. Bon, après, il faut voir ce qu'ils vont faire contre. Parce que Moreno, il va falloir qu'il découvre aussi la Ligue 1 et les blocs bas avec les bourrins. Je ne sais pas comment il va s'adapter.
Bah, d'ailleurs, là, c'est quand même agréable. Effectivement, ce n'était peut-être pas un ultra spécialiste de la Ligue 1. Pour une fois qu'un gars n'est pas venu au Parc des Princes, en gros.
Il n'a pas les joueurs pour faire ça, il a les joueurs pour jouer. Mais vous avez vu quand même qu'à 3-2, il va chercher le 3-3 en faisant quoi ? En faisant rentrer Slimani, et il sort un milieu quand il a sorti
Fabregas.
J'ai regardé, je suis attends. Là, il n'y a plus que Bagayoko en joueur réellement défensif.
Bon, il était plié, Fabregas. Il n'avançait plus, donc il était presque obligé de le sortir, mais il aurait
et
pu
là,
en faire rentrer un autre.
Avec une ligne de 4 avec Golovin et Bagayoko au milieu, quand même.
Contre les petits, j'ai envie de te dire qu'il faut qu'il joue pareil avec et il doit faire encore plus la différence.
Il jouera pareil et il a des attaquants devant pour faire la différence. Ben Yedder est un joueur extraordinaire.
Moi, il était bon encore.
Je le dis depuis l'époque de Toulouse, j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur.
Moi, je l'avais mis dans mes trois points que j'ai pas eu le temps de donner.
Et là, il est très fort. Ben Yedder, il est super fort.
J'ai été super concis dans les miens.
Là, sur le deuxième but, il est la classe. C'est la classe. Ben Yedder, c'est un joueur de classe.
Oui, et c'est bizarre parce que finalement, on parle évidemment beaucoup des attaquants du PSG, les 4 fantastiques et compagnie. Et Ben Yedder, qui aligne des stats en plus qui sont quand même conséquentes, hein, bien sûr.
Non, mais Ben Yedder, on le dit toujours dans l'after.
On en a souvent parlé.
C'est de classe. Ben Yedder, vraiment, pour le coup, lui, ça a toujours été un de nos chutes.
Supporters de Monaco, on vous attend, hein, bien sûr, si vous voulez réagir au match de votre équipe ce soir. Reparler par exemple de Slimani, pas très content de son sort d'être sur le banc. Puis quand il est rentré, on a vu que il peut être décisif même en jouant peu.
Il y a de grandes chances qu'il continue à être remplaçant quand même.
Même s'il a mal joué son dernier coup.
Dans les principes de jeu là, que Moreno veut développer, effectivement, c'est peut-être pas le profil privilégié.
Ça risque de jouer comme ça.
Mais il aura son mot à dire, parce qu'effectivement, un joueur comme ça, quand tu le fais rentrer, c'est souvent très efficace aussi.
C'est lui qui va chercher le 3-3.
Est-ce qu'il aura envie de jouer ce rôle-là jusqu'au bout, ou est-ce qu'il va pas avoir envie?
Et cette équipe de Monaco, dont je dis beaucoup de bonnes choses depuis le début, c'est je vois pas d'équipe, même en Ligue des Champions cette année, qui sont créer autant d'occasions contre le PSG. Le Real sur le match de Bernabeu, c'était beaucoup, beaucoup d'occasions. Mais Monaco, ce soir, on a eu beaucoup.
Énormément.
La balle de 3-1 en seconde période, le poteau de glisse. Il y a eu beaucoup
d'occasions des deux côtés, de manière.
Paris n'est pas habitué. Paris, ça leur arrive une fois par an, et encore, de subir autant de tirs, de subir autant d'occasions, vraiment quoi. Donc ça pose beaucoup de questions sur la compo du PSG, sur la façon dont ils doivent organiser leur 11 de départ, sur la capacité à jouer comme ça en 4-2-4. Et s'ils veulent continuer comme ça, parce que ça
peut, bah, il va falloir progresser sur certains aspects.
Parce que tu peux aussi partir du principe que tu subis des occasions, mais toi tu te crées énormément d'occasions.
Tu joues comme ça pour marquer un but de plus que l'adversaire. Voilà, en gros, pour schématiser.
À l'extérieur ou à domicile, tu joues pour mettre toujours un but de plus. Pourquoi pas ? Moi j'aime cette idée-là. Mais néanmoins, je me demande s'il n'y a pas matière à faire mieux au milieu. Et moi, je répète que ces deux-là au milieu,
alors,
prend moyen.
On va ouvrir le débat dans quelques instants, mais vu qu'on a démarré sur Monaco et que bon, bah, ce soir, c'est quand même Monaco qui nous surprend. Hein,
ouais, qui fait la très bonne opération et qui l'a fait bien.
Continuons encore quelques instants avec Adrien au 32-16, qui est là, supporter de l'ASM. Salut Adrien.
Salut tout le monde.
Bon, bonsoir, tu t'attendais à tel match ?
Oui. Alors, ça va faire prétentieux de dire oui, mais j'ai regardé le reportage juste avant sur Robert Moreno. J'ai regardé pas mal de choses et je lis tous les articles en ce moment sur ce qu'il veut faire et ce qu'il veut mettre. Et il y a enfin quelqu'un qui a compris comment il fallait jouer avec les joueurs qu'on a et surtout comment il fallait jouer face au PSG. En fait, c'est simple, le PSG, il faut pas leur laisser le ballon. Il faut les presser, les oppresser, il faut les rendre fous. Et Icardi, le grand phénomène, enfin, il a pas touché un seul ballon. Pourquoi ? Parce que il y avait pas la possibilité de lui passer le ballon. C'est simple, il faut empêcher le PSG de jouer. Et Moreno, lui, bah, il a la technique qu'il a toujours vue, hein, Luis Enrique, le Barça et la grande école de je prends le ballon.
Mais Adrien, il faut que tu les empêches. Je comprends ce que tu dis. Tu peux les harceler, tu peux les presser, t'as raison.
C'est ça, on le savait avant. Hein.
Ça, on le savait. Sauf que derrière, si t'as des joueurs techniques pour quand ils le récupèrent, il l'exploite bien, voire il le garde pour réussir de bonnes transitions, c'est encore mieux. Et Monaco, en Ligue 1, c'est l'équipe après le PSG qui a, en qualité pure, le meilleur effectif.
Complètement.
On l'a pas vu parce que c'est un club qui est en crise depuis plus d'un an maintenant. Mais en qualité, je veux dire, Lyon a pas un mec comme Golovin dans son effectif, Marseille non plus au milieu. Bon, Marseille, on va me dire Payet. Je préfère Golovin. Bon, voilà.
Aouar peut être quand même pas loin de ce niveau de là.
C'est vraiment ce niveau-là. Ben Yedder, c'est meilleur que les attaquants qu'ont Marseille et Lyon. Il y a des joueurs il y a des mecs qui en plus ont de l'expérience.
Non, mais sur la qualité de manière.
Non, mais il y a des mecs qui ont aussi.
C'est pour ça qu'on se pose la question, comment ils pouvaient en être là, d'ailleurs.
Il y a des mecs qui ont de l'expérience. Quand t'as un Fabregas, même s'il est. Bon, il est cuit maintenant. Mais le mec, il a tout gagné.
Fabregas, il va rejouer avec Moreno comme il n'a pas joué avant.
Il va rejouer, mais c'est un mec qui a une expérience incomparable. Heinrich, il connaît la sélection allemande. Il a joué en Bundesliga. Glick a fait des matchs de très haut niveau. Il a joué des très gros matchs de Ligue des Champions.
Oui, enfin, attends, Glick, là, il a fait un match ce soir. N'oublie pas qu'il est en perdition depuis plus d'un an.
C'est pour ça que je vais être prudent. Mais je te parle de qualité, de ce qu'ont fait les mecs, du bagage qu'ont les mecs. Dans l'effectif de Monaco, au niveau bagage, au niveau technique, si tu mets l'équipe en place, c'est quand même un effectif de très grande qualité. Bakayoko, il a joué à Chelsea, il a fait de très haut niveau avec Monaco, Daniel, il a fréquenté des grands.
Oui, bien sûr, Adrien, on arrive. Vas-y, Adrien.
Je suis complètement d'accord avec Daniel, complètement. Mais moi, j'ai juste un petit parallèle à faire. Je donne une Formule 1 à n'importe quel, d'entre vous, hein, même à moi. Je ne suis pas sûr qu'on est capable, ni l'un ni l'autre, ni qui que ce soit, de faire aussi bien que les grands pilotes qu'on voit. En fait, on a une super équipe à Monaco. On a des très très grands joueurs. Mais si on ne sait pas piloter cette équipe, l'équipe va nulle part. Et c'est ce qu'on voit depuis deux ans. À chaque fois, j'interviens sur votre antenne. À chaque fois, j'y vais avec la boule au ventre en disant je vais encore me faire vanner. Ça va être encore difficile pour moi. Je vais passer encore un sale quart d'heure. Là, c'est la seule fois depuis deux ans. Je me dis enfin, je vais pouvoir parler en soufflant un petit peu, en disant bah, enfin, on a vu du jeu. Et parce que Moreno
peut être l'homme qui va réussir à orchestrer tout ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est possible.
Espérons-le pour vous, hein, pour Monaco. Moi, je vais me permettre d'être patient. Pas parce que Moreno, hein, c'est pas ça. Moi, je pense comme vous, effectivement, que c'est un coach qui va être plaisant à regarder. Moi, j'ai juste un doute sur certains joueurs avec cette capacité d'enchaîner ce genre de prestations. N'oublions pas que le match contre le PSG est toujours très attendu.
Le match contre le PSG, en plus, il est plus simple pour des joueurs de ce niveau.
Mais bien sûr. Moi, j'attends de voir certains joueurs, le niveau de prestation de certains joueurs contre des équipes un peu plus bas de gamme et où il va falloir.
Comme le club était en crise, on sait pas bien quelle préparation ils ont pu faire.
Ouais, aussi.
physique et comment ils peuvent faire.
Complètement.
Tes réserves, je les entends. Il n'y a aucun problème, Pierre. Mais en qualité, il y a
un truc à faire. Sur la qualité, on l'a toujours dit. Il y a de la qualité à Monaco. Il y a énormément de qualité
dans cette équipe.
Je veux juste parler d'un 7-jeu. Par contre, je suis pas de cette trempe-là. Je fais pas du style deux arbitrages, toujours le même cinéma. Mais on peut encore parler des arbitrages pour le PSG et contre les autres.
Je l'avais trouvé plutôt assez bon, l'arbitre, aujourd'hui.
Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as vu, toi?
Je sais pas. Il y a pas juste un pénalty non sifflé.
La petite main de Thiago Silva à la fin.
La grosse main de.
Bah, on a dit avec Pierre, il y a des cas où on l'a vu siffler, ce genre de choses-là.
Parfois, c'est sifflé, t'as raison. Parfois, ça ne l'est pas. C'est compliqué.
Je vais appuyer un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que.
Non, mais t'as raison, Adrien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la. Le problème, c'est que, en fait, il y a un arrêt de jeu successif. C'est ça qui fait qu'ils peuvent pas revenir dessus.
Non, parce que sur ce coup-là, la balle sort, donc ils auraient pu revenir à ça.
C'est ça.
Ils n'ont pas regardé à ce moment-là.
Après, c'est leur boulot.
Ça, c'est la VAR. C'est donc, à quel moment
t'interviens. En plus, à chaque fois, ils mettent 17 minutes pour la VAR. À chaque action, ils pouvaient au moins utiliser 5 minutes de plus. On n'est plus à ça près.
Mais l'arbitre sur le terrain, moi, j'ai trouvé plutôt bon aujourd'hui.
Oui, mais moi je parle
pas
de la
VAR. Ils mettent trop longtemps la VAR, c'est pas possible de mettre si longtemps.
Adrien, merci à toi.
Ils font des débats à 10.
Salut Adrien.
Ciao Adrien. Une réunion dans le quart.
Ils sont combien dans le quart? Ils sont dans la pièce 4-5, non?
Ils sont deux.
Ils sont que deux? Non, à chaque fois qu'on voit la pièce au début, ils sont
deux
plusieurs.
Plus le techno qui met les images.
Ah ouais?
Daniel a visité avec Jérôme.
Deux. Là, il y avait Castro. Et Delarue,
et Fidel.
Et Raoul.
Amaury,
Amaury
Delarue, Castro et le techno.
Très bien.
Bon.
Enfin bon, l'action de VAR du week-end, c'est le magnifique alignement de hors-jeu d'hier qui empêche Bordeaux d'égaliser.
Oui. Oh là, oui, ça.
C'était génial.
Bon, les millimètres comptent aujourd'hui au football.
C'est pas le sujet du soir. Oui, encore faut-il que la caméra soit bien placée. Enfin bon.
C'est un millimètre qui ne peut pas être prouvé scientifiquement. Non,
je sais bien. C'est pour ça que je suis ironique, mais à un moment donné, il faut bien fixer des limites. Qu'est-ce que tu veux?
Bah ouais, ou bien pas. allez, on va conclure sur Monaco avec Mohamed. Ensuite, on parlera bien sûr longuement du PSG, des choix de Tourelle, du milieu de terrain et des autres. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir à l'équipe, bonsoir Daniel.
T'es au stade?
Bonsoir.
T'es au stade de Monaco, hein?
Exactement.
T'étais dans le petit parcage des supporters monégasques, là?
On était près de 1500, le parcage était plein.
C'est bon.
Honnêtement, on a fait énormément de bruit. C'était un match vraiment du stade, c'était vraiment génial.
Tu t'es régalé?
Rien à dire. Ah, franchement, ouais. Je vais juste une petite remarque en préambule pour Daniel. Je sais qu'il est anti-VAR et je peux le comprendre pour certaines choses, mais que l'argument de ça tue l'émotion. J'étais dans le stade et pendant les 3 secondes, les 30 secondes, la minute, je sais pas combien de temps ça durait tellement ça paraissait long quand on attend, et que au final, il montre le rond central. L'émotion, elle est encore plus grande que le but en lui-même. Vous venez de descendre. Tu arrives à marquer, tu vois le drapeau se lever. Tu te dis, merde, c'est fini, on a tout ça pour rien. Et au final, t'attends et on te confirme que le but y est. L'émotion, elle est encore plus grande que l'autre.
Double émotion.
Exactement.
Donc t'as kiffé ton but de Slimani à posteriori, quoi.
Exactement. Qu'on me dise que ça, les émotions changent, je veux bien l'écouter, je veux bien comprendre, c'est vrai. Mais que ça tue l'émotion, ça ne tue pas vraiment l'émotion, ça crée une nouvelle dimension d'émotion, en fait. Un retardement, où t'es là, t'es en stress, tu dis, est-ce que le but est validé ou pas? Limite, t'es là à espérer que, mais c'est là, ça crée une émotion. Donc, oui, non, la VAR ne tue pas l'émotion, elle crée une nouvelle émotion. Pas instantanée, c'est vrai. Mais c'est toujours une émotion. Et donc, c'était juste un petit aparté par rapport à la VAR.
Bon, sur Moreno, là, est-ce que t'es d'ores et déjà convaincu?
Bah, Moreno, pour l'instant, il met en place des choses. Il disait qu'il voulait avoir la possession de la balle contre le PSG. Certes, c'était difficile, mais on a vu des belles transitions. On a vu quand même, on n'a pas balancé. Glick n'a pas balancé des parpaings de la défense. Il a essayé de relancer propre. Pareil pour Maripane. Donc, on a essayé de mettre en place ce que voulait Moreno. Ça va prendre du temps. C'est pas face au PSG qu'on peut se juger et dire voilà, c'est bon, la patte Moreno, elle est là.
Bah attends, il y a un gros PSG cette semaine. Hein. Moi, je.
Oui.
Ça voilà, peut être sympa là, mercredi soir.
Exactement. Après, il faut voir comment on va enchaîner les matchs. Fabregas n'aura pas le coffre pour enchaîner les matchs. Pareil, peut-être pour un Golovin. On a vu Gelson Martinez se blesser. Donc, il va falloir attendre. Mais oui, la patte Moreno est en train de se mettre en place. Ça va prendre un peu de temps. Mais quand on voit d'où on part, en raison du retard du licenciement de Jardim, moi, j'étais un pro Jardim out. Parce que voilà, il a entre guillemets tué le club depuis maintenant un an et demi, presque deux. de par ses préparations physiques, de par ses entraînements ou autres. Et là, on voit quelque chose de nouveau, que ce soit Keita Mbappé qui le dit, que ce soit Fabregas. Donc, il va y avoir du renouveau. Et le jeu, on a vu quand même contre PSG, on n'était pas, le PSG nous a pas écrasé. On n'était pas satisfait.
Alors oui, je regarde le calendrier, là. C'est vrai que, alors bon, il y a le PSG mercredi. Donc bon, là, c'est difficile de faire des projections, évidemment, de points, hein, quoique, hein. Je veux dire, le PSG a déjà perdu à l'extérieur cette année et ça peut arriver à nouveau. Mais derrière, bon, il y a la Coupe de France le week-end prochain. Il joue contre un club amateur. Et après, il y a Strasbourg, Nîmes, Angers, Amiens d'affilée.
Non, mais pour Monaco, tout est possible. Je veux dire, ils sont à quoi? Ils sont à 4 points du 3ème.
Oui.
Bon, le 3ème est Rennes qui a un match en moins. Ah voilà, c'est une affaire de 5, 6, 7 points.
Ah voilà, mais là, clairement, là, maintenant, ils peuvent se repositionner sur le podium pour viser le podium.
Cette deuxième partie de saison peut nous fournir plein de surprises, que ce soit le retour de Lyon, Monaco. Enfin, tout est possible. Vraiment, tout est possible.
Il faudra juste, si je peux me permettre, il faudra juste être bon contre les petites équipes, contre Nîmes, contre Angers, contre Strasbourg, ne pas perdre des points, avoir une sérénité.
Bah, les trois matchs là, tu dois les gagner, les trois, quoi.
C'est la réserve que moi j'ai, en tout cas la patience que je demande pour voir, pour juger à ce moment-là, ouais, effectivement.
Voilà, il y a de l'espoir avec Moreno. Ça peut pas être pire que ce que nous a fait Jardim, ça c'est sûr. Il a un peu tué l'équipe.
Ok.
Donc voilà, est-ce que je peux te dire un petit coucou?
Vas-y, vite fait.
À mon épouse, sûrement qui doit très bien m'écouter, mes beaux-frères aussi qui m'écoutent sûrement. Et voilà, toute l'équipe d'Afterfoot et à tous les Ultras et à tous les Monégas. C'était vraiment une très bonne ambiance. Merci encore.
Merci Mohamed, salut.
Ciao Mohamed.
Salut.
Voilà pour Monaco. Dans quelques instants, on revient avec le PSG, évidemment. On va rentrer dans le détail ensemble suite à la performance parisienne. On vous attend au 32-16. Et puis on dira un mot de Nantes avant minuit, hein, quand même, qui gagne à ce qui est mine de rien les Nantais, avec une équipe qui est pas composée de grosses stars, qui est assez étonnante. Ils sont quatrième
face à une équipe aussi qui était.
Tiens, et puis Mohamed nous disait, tout le monde écoute l'After Foot, même Dominique Rocheteau apparemment. Vous avez vu ça? C'était
on m'en a beaucoup parlé.
Oui, c'était vendredi dans l'émission 20h Foot sur CNews. Et là, paf, Dominique Rocheteau, il arrive, il dit ça.
Bienvenue dans l'After Foot, c'est Dominique Rocheteau.
C'est pas l'After Foot, mais on est.
Oh là là.
c'est très bien, ça va me faire le bêtisier dès le début de.
Ça existe l'After Foot.
Oui, ça existe, mais on va arrêter de faire de la pub à nos concurrents. Si vous voulez bien.
C'est bon, ils ont été sport. Ils ont été
sport. Bravo Dominique. Bon, en fait, on l'avait eu avant, on lui a dit.
Ouais, petite pub.
Non, pas du tout.
Julien Pasquier aurait pas du mal le prendre. Il aurait dû se sentir flatté qu'on compare son.
Non, mais il l'a pas mal pris. Ah oui. Il a rigolé.
À l'after.
Quand tu compares la JOC au Real Madrid, c'est normal de se flatter, non?
Exactement. En plus,
je chambre.
Vous voyez, messieurs, vous n'avez pas la classe de Julien Jacquemus.
Bon, chambre.
Julien Pasquier.
Julien Pasquier, pardon. J'ai dit quoi?
Et en plus, non seulement ça, mais il aurait dû se sentir flatté. c'est vrai. Et deux, il dit on fait pas de pub à la concurrence. On n'est pas vraiment la concurrence.
Bah non, on n'est pas à la même heure.
Daniel parle pas de l'horaire. Là.
On n'est pas vraiment.
Bref, on remercie Dominique Rocheteau. Doumé, reviens quand tu veux dans l'after. Dans quelques instants, le PSG au programme, bien sûr. Bougez pas. Nous sommes de retour dans quelques instants. On est là jusqu'à minuit dans l'After Foot. Le vrai.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Pierre Ducrot est là également, bien sûr, après le match PSG Monaco 3-3. Si vous nous rejoignez, on va parler de Paris maintenant. Alors, est-ce que globalement vous êtes déçu par ce que vous avez vu ce soir dans la prestation collective? Les quatre fantastiques, ils n'ont pas tous été fantastiques, hein, avant de parler du milieu de terrain.
Il y a plusieurs choses.
Moi, je suis pas déçu. Moi, c'est bien de les voir dans cette situation-là, voilà, justement.
Il faut les voir dans une situation où t'es bousculé au milieu, où
une équipe qui joue, enfin qui a envie de jouer, en tout cas.
Face à des mecs qui veulent jouer et qui sont costauds, qui mettent de l'impact et de la technique. Oui, tu as raison. Les quatre.
Icardi, on l'a pas vu.
Mbappé a fait un match terrible.
Ouais, et Di Maria, bof.
Il y a que Neymar qui a été au-dessus.
Dans l'entrejeu, il a souvent pris des ballons.
Inconstant.
Moins que ces derniers temps, parce qu'en face, il y avait quelque chose.
Mais voilà, exactement. Il y a eu une vraie adversité. Donc, à partir du moment où tu as une adversité telle, oui, ça te remet face à des questions sur. Non pas forcément la capacité qu'ont les quatre de jouer ensemble, ils peuvent le faire.
C'est sur l'adaptation qu'ils doivent avoir.
C'est l'équilibre que tu veux faire. Si tu joues de cette façon, moi j'en reviens à ce que tu as dit, je pense que c'est la seule phrase à mettre en avant, c'est tu pars pour faire un match, pas où tu vas pas prendre, où tu vas pas subir des occasions. Tu pars pour un match un peu champagne, où tu veux marquer un de plus que l'autre. mais il va falloir que tu sois efficace.
Et encore pour.
Tu peux pas trop rater. Et n'oublie pas surtout
pour que ça se passe bien.
Que t'as concédé une ou deux occasions, surtout une qui peut te faire mener, qui peut faire que tu sois mené 3-1.
Plus que nos deux. Hein.
Non, mais celle de 3-1, moi je parle. Où tu peux être
Golovin. 3-1. Ah non, Baldé. Baldé voilà, avec Baldé. La semelle de Navas qui la sort.
Après, ils en ont subi d'autres.
Ouais.
Parce que 3-1, c'est déjà un score qui est un peu plus, quand même, à gérer. C'est un peu plus compliqué
à aller chercher. Ouais.
Bon. Donc, tu pars dans l'optique de faire un match contre une équipe qui est forte. Tu pars dans un match où t'es sur un fil. T'es sur un fil.
Ouais, et tout en sachant que quand tu veux partir pour faire un match de ce genre-là, t'es quand même obligé, alors oui, d'aller de l'avant et d'essayer de marquer plus que l'adversaire, mais également, voilà, d'être très efficace dans les zones de vérité et également d'assurer à un moment donné un certain équilibre parce que sinon t'as aucune chance de ne pas prendre plus de buts que ce que t'en mets.
Mbappé a pas été bon. Di Maria très inconstant.
Neymar a fait beaucoup d'efforts sur le côté gauche.
Neymar
il a joué énormément.
Les trois buts c'est lui.
Et en fait on en revient au milieu de terrain.
Et ça revient à
pour
ça.
Pour moi ce milieu de terrain a été très efficace pendant 30-35 minutes où ils ont harcelé très très haut. On l'a dit pendant le match où ils ont récupéré des ballons vraiment en quelques secondes très très haut dans la transition. Et après physiquement ça a été plus dur pour eux.
C'est que ça dure pas.
Ça a été plus compliqué.
Le problème, je suis désolé, Verratti ça ne peut pas durer 4 heures. Il a pas le physique pour faire ça.
Même Gueye aujourd'hui n'arrive pas à le faire tout le match, mais c'est normal parce que tu peux pas faire ça tout le match si t'es pas aidé ou si tu le fais pas à tour de rôle avec d'autres milieux.
Ça va être une difficulté, c'est l'impact physique sur la durée des deux qui sont au milieu, la capacité pour eux à jouer très vite, à donner aux ceux de devant. Enfin bon, bref.
Il y a ça ou il y a ne pas louper. T'as raison, ne pas louper Neymar qui est tout seul face au but. Il y a des monégasques devant lui, mais cadrer ce ballon et la mettre au fond.
Il doit la mettre.
Voilà, il y a plusieurs choses où tu dois être tueur
face. Il doit être effectivement très très tueur et au milieu il faut donner vite. À la fin, sur toute la seconde période, Verratti il revenait il gambadait quoi. Il n'arrivait plus.
Limiter les erreurs défensives aussi. Le deuxième but monégasque, je crois, quand ça part sur le côté gauche monégasque, sur le côté droit de la défense, c'est le deuxième but. Ouais. Tu peux pas défendre comme ça à 50 mètres de ton but et être 4 éliminés très très vite.
Y a une grosse
et tu peux pas défendre comme ça à l'arrivée
avec
Bernat qui se jette trop sur Ben Yedder trop vite.
Tu dois
limiter les erreurs.
On dit qu'il y a certains des 4 fantastiques qui étaient pas au top. Défensivement ce soir, t'as les mecs qui ont fait un match moyen.
Hein. Moyen.
Meunier, ouais, ouais. Un match moyen. Marquinhos, c'est pas un grand match non plus.
Ouais, c'est parce que tu subis. T'as face à toi une équipe qui joue. Tu subis parce que t'es pas
protégé. Ils ont le droit aussi de faire un match moyen.
Marquinhos et Silva m'ont moins dérangé que Bernat et Meunier ce soir. Moi, je les ai trouvés mieux que Bernat et Meunier. Bernat, pour moi, le deuxième but, pourtant, j'adore ce joueur, mais il fait une erreur. Il se jette, il ouvre la porte à Ben Yedder.
Très bien ce soir.
Mais parce ça, que c'est le genre de match où si tu mènes 2-1 ou 3-1, tu le tues le match. Après, le Monaco peut plus faire le même match. C'est fini. Il se jette trop. Enfin, tu as des espaces. C'est effectivement le genre de système où il va falloir être très tueur et très réaliste dans les deux surfaces.
Que Monaco, on va voir. Évidemment, je suis très pressé de voir l'enchaînement et 3 jours plus tard, qu'est-ce que Monaco peut faire à domicile? Est-ce qu'ils sont capables de faire une performance
de rééditer?
Aussi bonne dans l'impact, dans le jeu, dans la volonté de jouer, dans la volonté de faire mal à l'adversaire. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire mercredi? En tout cas, pour le PSG, ça va être 2 matchs durs en 3 jours. Il y a bien longtemps que ça leur est pas arrivé.
Honnêtement, avant le match,
on aura peut-être d'autres éléments pour débattre et peut-être d'autres.
Pierre et ensuite Ahmed au 32-16. Vas-y.
Non, j'allais dire avant le match, j'étais le premier et je reconnais mon erreur. J'étais le premier à dire que j'attendais un Monaco effectivement ambitieux, voilà, avec des vraies intentions offensives, mais je les voyais pas capables de les afficher aussi vite et aussi bien. Est-ce qu'ils vont être capables d'enchaîner? Maintenant, c'est ma question. J'espère me tromper encore une fois et que Monaco soit capable de le faire parce que on en a besoin.
L'after reçoit un message de Jérôme Rotten.
Il peut pas se passer de l'after.
Ses avis sont devenus aussi indispensables à l'after. Il dit le problème, c'est pas au milieu, les latéraux trop quand le PSG attaque. En plus, les deux en même temps, c'est dingue de pas voir ça. Dit-il. Donc, il met en avant un problème de positionnement.
Sauf que n'a pas été bon aujourd'hui. Ouais, sauf qu'à un moment,
Non, et puis t'es dans une transition, tu veux récupérer tous les ballons très très haut. Donc, pour moi, si je dois répondre à Jérôme là-dessus, c'est pas tant que les latéraux sont très hauts, c'est que quand t'es très haut, tu dois une fois de plus être très efficace dans le pressing. Et quand ton pressing est pas efficace, oui, effectivement, tu vois la position haute qui est avec des gars qui sont éliminés, comme sur le deuxième but.
Ahmed est là.
Après, c'est un rapport de force.
Au début,
Jason Martin a souvent été dans sa surface quand ça allait bien pour le PSG dans les premières minutes. Et ça a pas duré très très longtemps. Et après, le rapport de force, il s'est inversé avec un Bernat qui arrivait plus du tout à proposer offensivement, qui se retrouvait un petit peu ballotté au milieu du terrain et qui a souffert et qui a notamment pas été bon, surtout sur la deuxième période. Meunier, pareil, mais Meunier, ça fait, je trouve, plusieurs matchs, moi, qu'il est pas extraordinaire. Il a adressé deux, trois bons centres, voilà, mais pas plus.
On l'a pas toujours mis non plus dans les bonnes conditions,
hein, Meunier. Assez incompréhensible.
Des relances. Oui, la relance dans l'axe.
À la fin, qui était pas nette du tout, voire catastrophique même. Mais je te dis, c'est ce schéma-là, ce 4-2-4, il pose plein de questions. Mercredi, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Est-ce qu'il repart avec le 11 même?
Ah oui, moi je pense qu'il, alors le 11 même, je sais pas, mais le même système, moi je pense qu'il va le reproduire.
Le système, je parle des hommes.
Il va tourner un peu.
Il va tourner au milieu.
Il va tourner un peu parce que match tous les 3 jours.
Il est capable de mettre par exemple un Cavani à la place d'Icardi aussi pour faire souffler un petit peu avec des matchs tous les 3 jours.
Surtout que là, Icardi ce soir, bon, il a pas montré grand-chose, il est peut-être un peu
avec les 4 devant.
Dans le même système.
Cavani.
Non, mais je veux dire les 4 joueurs.
Oui, tu veux dire tactiquement.
Moi, je veux voir si au milieu, il ne veut pas tenter autre chose. La façon dont il sort Verratti pour mettre Paredes à ce moment-là du match.
Je veux voir Kerrer aussi, tu vois.
Je vois ça comme, je ne sais pas, je trouve qu'il y a...
Moi, j'ai plus vu ça parce que Verratti est vraiment carbo à la fin. Donc, bon. Ouais, on verra mercredi.
Allez, Ahmed est là au 32-16. Salut, Ahmed.
Salut les gars, merci de me donner la parole. Merci beaucoup.
Bonsoir. Alors toi, tu veux parler de Tourelle?
Non mais c'est une blague.
Pourquoi
c'est une
donc
blague, un 4-4-2, il met deux nains au milieu sur Bakayoko. c'est une blague. On s'est fait bouffer. Il remet Marquinhos, c'est pas Redes. Il met du costaud, il met du combat. C'est pas possible. Deux mecs d'1 mètre 60. Tu prends le milieu de terrain du Real. C'est Kroos et Casimiro. Vous avez l'impression qu'ils sont petits? Faut mettre du physique dans un 4-4-2. Donc on a pris l'eau. Enfin, c'est une bonne équipe de Monaco, parce que pour moi Monaco c'est la meilleure équipe après Paris en termes d'effectifs, en termes de qualité. Donc je suis content parce que il y a des passes droits. Gueye il est blessé pendant 2 mois. Le Paredes c'est des très bons matchs et tout d'un coup Gueye revient, il est titulaire. Ah bon, comme ça. Pourquoi tu redonnes pas de la confiance à Paredes? Je comprends pas. Moi il y a une phase que je comprends pas là en ce moment. Donc j'espère moi qu'on va retrouver Marquinhos au milieu à côté de Paredes parce qu'il faut du combat. Puis Marquinhos en défense centrale. C'est difficile en ce moment. Donc je préfère avoir un mec
Moi je suis pas d'accord.
Ton histoire d'impact effectivement à très haut niveau, ça se pose. Évidemment, on précise.
Il y a plusieurs façons de mettre de l'impact aussi. Ouais, il y a plusieurs façons de mettre de l'impact en plus.
Effectivement, la petite taille, c'est un peu rédhibitoire, surtout que Verratti défend pas super bien. Est-ce que à terme, tu peux pas te lancer dans une sorte parce que t'as Kimpembe qui va se reproposer comme titulaire possible en charnière centrale et qui est quand même très costaud dans les duels et tout ça. Est-ce que tu crois pas qu'à un moment il peut se dire bon bah si les quatre de devant, parce qu'en fait il est dans la réflexion que les quatre vont jouer devant.
Mais c'est pour ça que je te dis que Marquinhos sera au milieu, moi.
C'est problème. Mais il y a pas que le milieu. Est-ce que tu vas pas mettre 4 centraux derrière, c'est-à-dire Diallo à gauche?
Oh non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça parce que
Diallo il est capable.
Quand tu dis est-ce qu'il va pas, là tu parles du match de Dortmund que t'as pas cité, hein, pour que les gens comprennent bien.
Oui, mais non,
tu parles pas forcément de Monaco ou des prochains matchs de championnat.
Et puis à droite quoi, c'est quoi tes à droite Kerrer?
Moi je me pose beaucoup de questions. Si j'ai lu, en tout cas, je pense que j'aurai le cerveau en ébullition en ce moment.
Donc Ahmed,
ce que je voulais répondre à Ahmed, c'est que tu peux pas dire que Marquinhos derrière c'est catastrophique.
Je te le dis, si tu joues avec tes 4 devant, que tu dois les laisser faire leur festival, ils sont capables de faire mal à tout le monde. Les 6 autres, ils doivent jouer au foot évidemment, parce qu'on n'est pas en train de parler de
Bourin. Marquinhos, Daniel, t'es d'accord que c'est Marquinhos Silva là, la charnière, c'est logiquement si tu veux la plus forte derrière, c'est celle-là. On peut pas dire que Marquinhos est catastrophique derrière.
Je te dis que les 6 autres joueurs, si t'as ces 4 là, les 6 autres,
ça doit être des monstres.
Ils doivent t'envoyer.
Mais t'as plusieurs.
Ça doit être physique, ça doit être capable de également de bien jouer. Et donc moi je te dis, ça se joue aussi à la taille, ça se joue aussi à ce que tu vas proposer.
Il y a plusieurs façons de mettre de l'impact aussi. C'est pour ça que je voulais dire ça, mais j'ai laissé finir Ahmed. Je suis d'accord que sur tout un match, effectivement, Gueye et Verratti ont pas la capacité, le coffre pour le faire.
suffisamment longtemps.
Les deux,
je suis d'accord.
Ce duo, j'y crois
mais
pas.
Quand ils le font, tous les deux, avec quand ils sont physiquement bien, pendant non, ça a duré 30-35 minutes.
Bah, et c'était génial,
c'est top, hein, parce qu'ils jaillissent, parce que le nombre de ballons qu'ils ont récupérés en jaillissant tous les deux, parfois même au même endroit, ils ont cette capacité à le faire quand ils sont bien physiquement. Le problème pour moi, c'est pas un problème de taille, c'est un problème de coffre pour avoir le volume de jeu pour le faire plus longtemps.
Oui, en fait, c'est plutôt ça. Il faudrait trouver un mot. Il faudrait qu'on.
Moi, j'appelle ça la capacité de destruction.
Capacité à reproduire l'effort, ta capacité d'effort sur 90 minutes.
Ouais, c'est ça. Là, je suis d'accord.
Ah, mais un truc à rajouter.
C'est ça. Il peut être plus petit, mais il est capable de cavaler.
Il peut avoir un mec d'un mètre 85 qui ne sait pas le faire non plus.
Quoi. Vas-y, Ahmed, si tu veux rajouter quelque chose.
Que Neymar soit dans les zigzi, dans le talent, c'est son truc à lui. Que Mbappé s'amuse à faire des talonnades, des pichenettes comme ça, alors qu'on ne domine pas le match, ça, je le trouve inacceptable. J'ai trouvé le match de Mbappé inacceptable. Voilà.
Bon, à quel moment tu l'as
moins bien. Mbappé, il a fait un coup du foulard, c'est ça dont tu parles, c'est ça?
Oui, il a fait des trucs.
Ouais, bah ça, un geste technique un peu qui détonne un peu sur un match, c'est pas dramatique.
C'est pas un match où on domine, c'est un match où quand on fait 2-3-0, je veux bien, mais pour l'instant, on joue simple.
Bon. Ouais, non, mais après, sur ce fait de jeu-là, oui, il a pas tort, Ahmed. Okay. Effectivement, tu peux à un moment donné, quand les matchs sont pas encore gagnés, être efficace. C'est ce dont on parlait. Être tueur et efficace. Bon, ça peut se comprendre.
Merci, Ahmed, en tout cas.
Merci, les gars.
Salut, ciao, à toi, Ahmed. Bonne soirée. Rappelle-nous quand tu veux dans l'after. Ilan avec nous également, supporter du PSG. Salut, Ilan.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir, Ilan.
Alors, moi, ce soir, je voulais surtout.
Il n'a pas mis en retourné au Parc des Princes, Ilan, un jour.
Ah si, exact.
Il est magnifique, Ilan. On s'en souvient de ton but. Hein.
Ouais. Avec Sochaux.
Il était magnifique, ce but avec Saint-Etienne. Mais ce soir, j'étais pas au stade.
Il y avait aussi le bon Ilan Mansiz, le Turc. Vous vous souvenez de
celui-là? Beaucoup moins.
Ouais, aussi.
Bon, bref. Vas-y, Ilan, on t'écoute.
Ce soir, j'ai pris énormément de plaisir devant la télé. On a assisté à un très bon, très bon match. Mais pour faire un bon match, il faut être deux équipes. Par contre, moi, je voulais souligner le c'est pas un problème d'animation ni de 4-4-2. Je pense que c'est un problème de repli défensif. On a beau avoir Donin comme dit Ahmed au milieu de terrain, mais je pense pas que ce soit un problème de taille ou de physique. C'est qu'aujourd'hui, on a ni Mbappé ni Di Maria qui sont revenus défendre une seule fois dans tout le match. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, on va nous dire.
Alors, attends, Ilan, je te coupe parce que Moreno est en conférence de presse. Donc, on va juste voir s'il parle en français pour sa première réaction. Ouais, je pense pas, mais.
Et c'est ça.
Si, il parle français.
Je ne vais dire rien que vous ne savez de Paris Saint-Germain. Ils sont une équipe de champions. Alors, je vous félicite, mon joueur, parce qu'ils ont fait un grand match. Et c'est ce que je pense que a été le secret. Le secret. Si ça peut dire secret.
C'est le secret, voilà, ils ont fait un grand match.
C'est bien, c'est un bel effort, mais il pourrait parler espagnol, comme ça il se lâcherait.
Il pourrait nous expliquer les choses. Ouais. C'est toujours le problème, c'était pareil avec Emery au début, c'est un peu dommage. Bon, mais il fait l'effort, c'est vrai.
L'effort est louable, mais on les a tellement fait chier à dire il faut parler français. Ouais, moi, je m'en fous, du moment qu'ils parlent, peu importe. On traduit après, ça va, quoi. Faut pas les obliger. Parce que là, finalement, il arrive pas à trouver, quoi.
Ouais, bon, du coup, on va arrêter. Mais en tout cas, on aura entendu le son de sa voix. À Moreno. Ilan, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé pour pas grand chose. Mais tu es là, tu peux continuer. Ilan?
Oh, allô?
Ouais, vas-y, tu peux continuer.
Oui. Non, je disais simplement que ce soir, on a vu aucun rempli défensif de la part de Di Maria et Mbappé. Et beaucoup de journalistes ont souligné le match contre Saint-Etienne en disant que oui, on a vu des attaquants qui faisaient un repli défensif. Mais il faut pas oublier qu'on a joué pendant quasiment une heure et demie à 11 contre 10. Mais ce soir, franchement, je n'ai pas vu justement cette même mentalité et ce même repli défensif. Alors on a vu Neymar deux, trois fois faire un semblant de repli. On l'a vu dans l'agressivité. On peut pas lui reprocher non plus. Il a marqué trois buts. Enfin, plutôt deux buts et impliqué sur le troisième. Mais moi, je pense que c'est pas un problème de milieu, c'est plutôt un problème de mentalité et de caractère pour revenir défendre. Ils ont beau avoir 10 occasions dans tout le match, ça n'empêche pas quand même de revenir de temps en temps pour faire le surnombre au milieu de terrain. Voilà, je sais pas ce qu'en pense Daniel, mais parce qu'il a insisté tout à l'heure sur le milieu de terrain, moi je pense que c'est pas un problème de milieu de terrain, c'est un problème de repli défensif, notamment Mbappé et Di Maria.
Non, mais c'est un problème de milieu de terrain si les mecs ne peuvent pas pendant 90 minutes travailler beaucoup. Après, il y a un autre truc, il y a aussi quand t'es deux comme ça, capacité à bien défendre, à faire les bons choix. Le début de match de Verratti est très bon, bon, ça passe, c'est lumineux, c'est très bien, ça, on sait qu'il est capable de faire ça. Et en fait, plus il se fatigue dans le match, plus il a cette tendance à se jeter. Tu sais, quand il se jette complètement. Et en se jetant, parfois, il se jette, mais tellement, on a l'impression qu'il plonge.
Parce que t'es plus lucide après.
Voilà. Et à chaque fois qu'il est éliminé sur un plongeon comme ça, derrière, il y a boulevard. Et je peux t'assurer que Monaco a eu deux ou trois situations très chaudes suite à soit des ballons perdus par Verratti, soit ces fameux plongeons là où c'est bizarre ce qu'il fait comme geste d'ailleurs à ce moment-là. On a l'impression qu'il maîtrise pas, tu sais, un petit peu comme s'il sautait, quoi. Et puis, comme s'il y avait une ligne, il saute et puis bah, derrière lui, et après, c'est le boulevard, quoi.
Pour revenir à ce que tu disais, le repli défensif des attaquants, faut aussi savoir que très souvent, en tout cas, allez, si je dois donner une proportion, 70% du temps, Neymar est côté gauche, Di Maria est côté droit. Et c'est effectivement ces joueurs-là qui sont amenés à faire le plus grand replacement parce que Mbappé et Icardi sont plus axiaux et effectivement ils se replacent juste devant les milieux et ils ont pas ces grandes courses à faire. Donc c'était pour ça que t'as un peu moins vu aujourd'hui Mbappé le faire. Moi je te trouve dur avec Neymar parce qu'il l'a fait beaucoup plus que 2-3 fois. Après, t'en feras jamais des pistons sur les côtés ou des joueurs avec une grosse envie de défendre tout un match. C'est pas leur profil.
Et, bah c'est pour ça
et même quand ils vont le faire, ils vont pas le faire efficacement parce que c'est pas ce qu'ils savent faire en premier.
Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ne savent pas.
Ouais, non, c'est bien sûr.
C'est pour ça que je te dis, si jamais tu veux jouer avec les quatre dans un gros match de Ligue des Champions, dans quelle mesure tu dois surtout penser au bloc des six autres. Et dans le bloc des six autres, limite, moi, tu joues à Dortmund ou tu joues un match de Ligue des Champions, j'adore Bernat, mais je me demande si je ne mets pas Diallo.
Ah non, pas moi. Non.
Qui sera plus costaud.
N'oublie pas que Bernat en Ligue des Champions, il a
cette capacité
à être bon. Oui,
quoi.
Mais pas dans un schéma de 4 comme ça. Parce que là, comme ça, t'attends plus trop de ses débordements, t'attends plus tôt de son surnom, puisque de toute façon, tu vas avoir Neymar, tu vas avoir Mbappé qui décroche
la façon de trouver à gauche. T'es quand même obligé, et là, c'est peut-être une erreur que certains commettent, même si tu joues à 4 devant comme ça, t'es quand même obligé d'avoir des mecs sur les côtés qui vont venir dédoubler. Ne serait-ce que pour une chose, c'est que Neymar et Di Maria rentrent énormément intérieur et que si tu ne proposes pas dans le dos sur l'extérieur, bah tu surprends plus personne. Les mecs de côté te suivent, te bloquent. Et là, si t'as pas les dédoublements et ces mecs-là qui sont sur les côtés, tu perds quelque chose, quoi.
Donc, merci, Ilan, en tout cas.
Quand même des mecs en plus.
Oui, attends,
j'arrive.
Les autres, hein. Diallo, c'est un mec qui est capable.
Ouais, Diallo l'a déjà fait quand il était rentré, notamment.
Bien sûr, non, mais c'est.
C'était en Ligue des Champions.
Vas-y, Ilan, pour conclure.
Juste pour revenir sur un point, mais plutôt un point défensif. Si Jérôme Rotten était là ce soir, il aurait dit qu'il attendait qu'une chose, c'était Marquinhos qui revient en défense centrale. Mais pour moi, c'est la meilleure paire de défense, Marquinhos et Thiago Silva. Mais ce soir, ils ont été souvent en infériorité numérique. On peut pas leur en vouloir, mais pour moi, c'est la meilleure paire en défense.
Voilà. Très bien. Bah, le message est passé, Ilan. Salut à toi. Bonne soirée. Salut. Quelques réactions pour conclure sur Direct Studio. Chris nous dit, Turel, comment peut-il attendre la 78e pour faire des changements? Il doit voir avant qu'il est à la rue au milieu, dit Chris. Tom nous dit, je suis parisien, mais je suis étonné que personne n'ait encore parlé de Lecomte, le gardien de Monaco, qui, c'est vrai, a été décisif.
Ouais, il a fait une très bonne partie, ouais. Voilà. Les deux gardiens, d'ailleurs.
Et puis Socrates qui nous dit, c'est Navas quand même.
Aussi a été décisif.
Ouais, les deux gardiens.
Navas,
ouais.
Il sort un ballon, là, en plus, il était sur un mauvais appui, la claquette au-dessus.
Sur Kader.
Et l'arrêt sur Keita Baldé, la
Keita Baldé.
Énorme.
Et puis Socrates qui lui dit, c'est quand même dingue que le PSG, aussi proche du match de Dortmund, ne soit pas encore sûr de son équipe type.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà.
Le PSG ne peut pas être un laboratoire permanent des schémas de jeu.
Ouais. Après, le PSG a rarement eu tous ses hommes en même temps aussi, c'est ça le problème.
Après,
du coup, ça crée des problèmes en fait.
Non, mais c'est vrai.
Dans l'histoire de tu joues avec les quatre devant et tout, si t'as une capacité comme au début de la rencontre à jouer très très haut, bah, plus tu le feras, moins t'auras besoin de repli défensif et de course en arrière.
Là, tu récupères les ballons très très haut.
Parce que tu les récupères pas plus haut. Là, t'en reviens à ce que pouvait faire le Barça à une époque où ils n'avaient pas besoin de mettre l'impact physique. Il n'y avait pas d'impact physique. Ils jouaient sur l'évitement, sur les passes.
La densité défensive dans des petits espaces, voilà. Dès la perte de balle.
Tu refermais comme tu faisais comme un maillage en étant tout le temps très haut.
Mais ça, il faut que tu aies la capacité physique à le faire pendant.
Des petits au milieu, des petits partout. Mais ça, il faut avoir une capacité physique de dingue et un niveau technique énormissime pour pouvoir, à chaque fois que t'as le ballon, tac tac tac, immédiatement te la donner.
Après, c'est des maths, hein. Quand tu mets beaucoup de densité défensive dans des petits espaces pour récupérer la balle, une fois que tu l'as récupérée, t'es dans cette densité d'hommes, et techniquement, effectivement, faut pouvoir après en sortir et aérer très, très vite le jeu. Mais il faut pour ça être physiquement capable de le faire pendant 70, 75 minutes, 80, parfois, voilà, dans des grands matchs. Pour l'instant, le PSG, pour moi, n'a pas les milieux capables de le faire aussi longtemps. Sur une petite courte période, oui, mais aussi longtemps dans un match, non.